Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Alors ce soir, pas d'invités, mais nous avons plein de chroniques sur des sujets un peu divers, mais qui, on va pas se refaire, parlent souvent d'économie et de politique, ou de politique et d'économie. Enfin, en ce moment, on sait pas trop la différence. D'ailleurs, Jean-Marc va commencer à nous parler de dealers.
Les dealers, alors, c'est bien une forme d'économie. Elle est dealer ou elle est dealer, c'est la ministre de la Santé. On en a beaucoup moins parlé que de la ministre du Travail ces derniers temps. Et pourtant, cette dame est croquignolette. Madame Buzyn, c'est son nom, est donc un des fiers représentants de La République En Marche. Et elle marche très très bien dans une direction qu'on va voir. Elle n'a rien à envier à sa collègue sympathique du travail, bien qu'elle n'ait pas fait d'ordonnance. Alors, plus discrète.
Elle est médecin, donc.
Elle est médecin, ouais.
Elle en a dû faire quelques-unes dans sa vie.
Eux aussi, ils font de la sécurisation. La sécurisation, c'est-à-dire envoyer des salariés à Pôle emploi. C'est le job le plus stable à l'heure actuelle. Alors, plus discrète, cette dame, donc la ministre du Travail, n'en a pas moins quelques liens solides avec les laboratoires. C'est un grand classique dans le milieu de la médecine et en particulier dans les allées du ministère de la Santé, hélas. Des liens solides avec les laboratoires, ce qui, bien sûr, n'augure rien de bon pour la politique de santé publique et pas davantage pour l'équilibre des comptes de la Sécu. Qui ne passe jamais, comme chacun sait, par le contrôle de ces méritantes entreprises que sont les labos, il faut plutôt fliquer les médecins sur les ordonnances et empêcher les gens de se soigner. C'est beaucoup mieux que d'empêcher les labos de vendre des médicaments, comme le dernier qui vient de sortir aux États-Unis. Dernier traitement, je vous le donne en mille, le prix, $453 000. Bon.
Et si on a, sans si on... mais c'est pour soigner quoi?
Une forme de leucémie. Chez les enfants, d'accord. Chez les enfants, c'est mieux. Ça a été calculé par le labo. Si on propose un prix aussi élevé pour un traitement pour les enfants, ça passe mieux qu'un traitement pour les adultes. Mmh. Pas mal, hein. 453 000 $.
Une petite étude de marché.
Ouais. Quoi. Exactement. Heureusement, le gouvernement veille sur nous et prépare le passage indispensable de 3 vaccins obligatoires à 11. Et vous êtes priés de le croire, ce n'est que pour la santé publique et la santé des enfants. Rien à voir, bien sûr, avec les dividendes des actionnaires. Sauf pour les mauvais esprits. Pourquoi 8 de plus? Parce que, vous l'aurez noté, ces dernières années, il y a une abominable résurgence des maladies. Le ministère a même parlé d'épidémie. Les morts ne sont-ils pas ramassés chaque matin dans les rues des grandes villes de France? N'a-t-on pas vu que pire épidémie depuis la peste noire? Pourquoi 11 lorsque dans les autres pays européens, la moyenne des recommandations se situe entre 3 et 5 vaccins? Pourquoi 11 vaccins alors que depuis des années, des médecins et des associations de plus en plus nombreuses au niveau international dénoncent l'inefficacité de certains vaccins et même la nocivité de certains autres? Sans même aller jusqu'à parler de l'hépatite B parce que ça fâche, il y a quand même le problème de l'aluminium et pas mal d'autres choses. Pourquoi 11 vaccins obligatoires d'un seul coup sur des enfants en bas âge? Puisque ce nouveau pack de 11 vaccins serait à faire entre la naissance et 2 ans. Sans aucune étude sur la capacité d'absorption des minots et les risques que cela leur ferait courir. On n'est pas sans savoir que sur des enfants même plus grands, il y a parfois des phénomènes violents de rejet des vaccins. Donc en mettre 11 sur des gamins à la naissance, comme c'est préconisé dans le premier texte du ministère, ou au plus tard à 2 ans, on se demande ce que ça va faire et si il ne va pas y avoir une surmortalité infantile due à ce super vaccin. N'y aurait-il pas un principe de précaution à respecter? Eh bien non, évidemment, le principe de précaution, c'est fait pour les autres, mais c'est pas fait pour les labos. C'est pas Servier qui va nous dire le contraire, d'autant qu'il est mort. Alors, pourquoi 11 vaccins obligatoires sans qu'aucune règle ne vienne interdire les adjuvants nocifs, mais qui permettent de produire à bas coût? Parce qu'il faut savoir que l'aluminium ne sert à rien dans les vaccins. Il ne sert qu'à 2 choses, baisser le coût de production et 2, faire en sorte que le vaccin soit périmé après beaucoup plus de temps, ce qui évite des pertes. Donc comme ça, on n'a pas de vaccin à détruire, ce qui coûte cher, et tant pis si l'aluminium se circule dans le corps pendant des années. Pourquoi est-il besoin d'imaginer un bilan sanitaire dans 10 ans? Ce n'est pas la temporalité du ministère, c'est pas la temporalité de Macron qui est un homme pressé. Quel intérêt si l'on peut estimer la croissance immédiate et conséquente des chiffres d'affaires des labos? C'est ça qui est intéressant. C'est pas de savoir si dans 10 ans, ce sera une catastrophe de santé publique. C'est de se dire que pendant 10 ans, les labos français vont se faire des couilles en or. Comme à l'époque de la super grippe. Comme à l'époque de la super grippe. Rappelez-vous, c'était il y a pas si longtemps, avec une autre ministre, elle aussi, liée au milieu pharmaceutique, qui s'appelait Roselyne Bachelot.
Et oui.
CQFD.
CQFD, tu nous assènes tout ça, mais évidemment, tu es médecin pour nous expliquer tout ça parfaitement.
Évidemment.
Évidemment. Mais elle, et je ne sais pas si...
Mais moi, je touche rien des labos, par contre.
Si, voilà, c'est toute la différence. Alors, à qui croire ? Faites-vous votre opinion. En tout cas, tu n'as pas que ça à nous asséner de ta grande sagesse. Tu as quelques petites brèves.
Oh oui, alors des petites brèves, ça fait toujours plaisir. J'ai lu donc, d'après un groupe d'économistes et de fiscalistes, que en chiffrant les mesures fiscales et les mesures d'allègement prévues par Macron et sa clique, on arrive à 46% des allègements, des charges et d'impôts qui vont bénéficier à 10% les plus riches de la population. Donc la moitié des allègements, 10% les plus riches. Cherchez l'erreur. De l'autre côté, autre brève, les feignants, les fonctionnaires par exemple, ont leur salaire gelé depuis 7 ans. Avant, c'était pas terrible, mais là, c'est carrément gelé depuis 7 ans. Bah, eux, ils paieront plus de CSG et ils vont payer la journée de carence qui avait été retirée, remise et qui va être re-remise. Mais ce sont des affreux privilégiés, bien sûr. Avec un temps de travail moyen qui augmente. Tout comme les cheminots. Vous savez, les cheminots, c'est une autre catégorie de privilégiés qui, selon la logique macronienne, ça c'est quand même un progrès dans la pensée humaine. Il ne faut pas oublier que ce monsieur est un penseur profond, et bien les cheminots devraient perdre leurs avantages pour rembourser la dette de la SNCF. Donc, quand l'État patron, gère mal la SNCF, entre autres en piquant des sous à la SNCF pour renflouer le budget de l'État, qui cependant est en large déficit malgré tout, et bien après ça, on demande aux employés de rembourser la dette. Et je pense que le concept est intéressant et serait à élargir à peu près toutes les professions. Si toutes les professions remboursaient les dettes de leur patron, je pense que le monde irait beaucoup mieux.
Alors des dettes, on en a souvent, mais on prévoit d'en avoir. Enfin, on en a déjà parlé là, c'est les dettes qu'on va avoir à cause des Jeux Olympiques. Mais quand même Jean-Marc, c'est un vrai miracle d'avoir ces JO.
Ah oui, c'est un miracle. Plus fort que la traversée de la mer Rouge à pied sec. Plus fort encore que Marie enceinte du petit Jésus sans avoir connu le loup, Paris et l'État français ont donc remporté le droit d'organiser les JO en 2024. Juste au milieu du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, bien sûr, c'est ce qui est prévu. À en croire les médias, remporter ce droit serait une grande et incroyable victoire. Il est vrai que gagner un concours lorsqu'on est seul en lice, c'est très difficile. D'ailleurs, au passage, comme les Français ont toujours des problèmes au moment des Jeux Olympiques, je propose de mettre le même système pour les athlètes, c'est-à-dire que les athlètes français soient seuls dans leur compétition. De cette manière, on aurait beaucoup de médailles d'or. Je suis un peu caustique, oui, il est vrai. Mais je fais amende honorable, car il y a bien un véritable miracle de ces JO, et même plusieurs. N'est-il pas miraculeux, en effet, que Paris et la France parviennent en 7 ans seulement à réaliser des travaux d'Hercule, à savoir... construire des stades, des piscines, un village olympique, tout en dépolluant la région puisqu'ils s'y engagent. Ce seront des jeux écologiques. Fluidifier le trafic ferroviaire et routier, comme s'il y avait des problèmes ferroviaires et routiers en région parisienne. Loger des milliers d'athlètes et des millions de visiteurs tout en étant écolo. À genoux, mécréants, hommes de peu de foi, si vous n'y croyez pas. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de terrain qu'on n'y arrivera pas. Il n'y a pas de terrain en Seine-Saint-Denis. Comment on va faire ? Peut-être qu'on va virer des pauvres. Mais c'est pas grave, virer des pauvres en Seine-Saint-Denis, on en a des stocks incroyables en Seine-Saint-Denis. On peut donc en virer quelques-uns pour mettre des athlètes ou pour mettre des touristes. Qui va s'en plaindre ? Non, ce n'est pas parce que depuis 30 ans, ni l'État ni la ville n'ont été fichus de loger les sans-abri qu'il ne faut pas y croire. Là, il y a du pognon à se faire, donc on va y arriver. Non, ce n'est pas parce que l'État ni la ville ne sont fichus depuis des années de loger quelques milliers de migrants démunis qu'il ne faut pas y croire. Là, il y a du pognon à se faire. On va le faire. Non, ce n'est pas parce que l'État ni la région ni la ville ne sont capables de construire et d'entretenir les écoles, les hôpitaux et les autres services publics qu'il ne faut pas y croire. Les géants du BTP attendent, donc là, on va les servir. Non, ce n'est pas parce qu'une partie des édifices français les plus remarquables, dont la basilique de Saint-Denis, menace de ruine faute de budget... qu'il ne faut pas y croire. Non, ce n'est pas parce qu'une fois les dépenses seront socialisées et les bénéfices privatisés, qu'il ne faut pas y voir toute la magie et les valeurs du sport, le partage, la souffrance collective, mais un immense enthousiasme. Merci, Madame Hidalgo.
Nous ne pouvons qu'applaudir. Alors,
on
reste sur ce joli thème du miracle. Je ne sais pas de quel miracle va-t-on parler, mais c'est un texte de Patrick qui s'appelle « Le rat top glabre ».
Oui, top parce que tu es du midi. Moi qui suis du nord, enfin exactement breton, je dis taupe. Voilà, mais ça ne change pas la chose. Le rat taupe glabre. Oui, parce que pendant 7 ans, on va nous vanter les mérites des hommes et des femmes musclés. Et bon, moi j'en parle une fois, mais après je me tais pendant 7 ans, si je suis encore là, parce que ça suffira. Hein. Donc, disciple de la muscu, adepte du bodybuilding, agrégés au culturisme, appauvris des mandibules, races agnates aux dents jaunies par le tabac et gâtées par l'alcool. Vous voilà incapable d'affronter la mâchoire du râteau peu glabre. Mâchoire, mâchoire, qui grâce à ses seules incisives proéminentes revendique 25% de la musculature totale du râteau peu glabre. Moi, Chris Fawkes, citoyen chercheur de sa gracieuse majesté, je dédaigne les deltoïdes, les grands rhomboïdes, les petits pectoraux, les biceps brachiaux. Moi, Chris Fawkes, j'admire depuis 26 années le rat taupe glabre. Le siècle allait finir 14 années plus tard que déjà, en blouse et en surchausse, je les observais, ces rats aux glabres, et aujourd'hui, toujours, je les observe, dans leur boîte salle à manger, en train de s'empiffrer de doux beurre et de patates douces. Je les observe dans leur boîte toilette, tandis qu'ils urinent et défèquent. Je les observe dans leur boîte dortoir, salle de séjour, où la reine, leur gracieuse majesté, depuis l'âge de 6 mois, s'accouple avec ses frères ou ses fils en exclusivité. Fiers d'être les seuls mammifères à posséder la poïkilothermie et de pouvoir ainsi s'adapter à toute température. Pâle figure en comparaison que nos adeptes de la gonflette aux muscles hypertrophiés, incapables de rivaliser avec la longévité performante du râteau glabre, sans arthrose, sans ostéoporose.
Une leçon de vie quand même.
God save the Queen.
Tout est véridique hein, dans les informations fournies.
Je n'en doutais pas. Que serait-ce la science sans ces analyses? Eh bien, nous continuons par une chanson, Society, d'Eddie Weber.
Pluriel 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attac.
Et bien entendu, ça nous manquerait une petite chronique sur les traités internationaux, n'est-ce pas Gaël?
Et oui, vous avez déjà parlé du CETA.
Je ne crois pas.
Oh non.
Alors le CETA, on ne le présente plus, mais je vais le présenter quand même, pour ceux qui ne se souviennent plus. C'est un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, qui a été signé en novembre 2016 et ratifié par le Parlement européen en février dernier. Alors l'idée générale, c'est de permettre aux multinationales de faire leur business tranquillement, sans être dérangées par des normes sanitaires, du droit du travail, des lois de protection de l'environnement.
Bref, tu veux dire que ça a été écrit par Madame Pénicaud ?
Voilà, ça protège les multinationales de toutes ces contraintes qui font qu'on a vraiment de la peine pour Pierre Gattaz quand il nous parle de ses problèmes. Alors, pour être complètement signé, il faut que le traité soit ratifié par 38 parlements nationaux ou régionaux en Europe. Alors le processus a commencé au printemps 2017 et c'est prévu pour durer jusqu'à la fin 2018. Et il suffit normalement qu'un seul parlement vote contre pour casser la baraque. Mais en attendant toutes ces ratifications...
Bon, on peut compter sur les députés de la France en marche, là.
Les oui, Macron, voilà, les rebelles de
et les compatibles,
France en marche devraient... En tout cas, qu'on ratifie ou pas, pour l'instant, avant même de voter pour la ratification, 90% du traité peut déjà s'appliquer de manière provisoire. Ça s'appelle la démocratie européenne. Alors un tas d'organisations se sont mobilisées pour faire capoter le CETA, qui représente une lourde menace sur la démocratie, les services publics, l'agriculture, l'environnement et la santé. Et le combat continue sur plusieurs fronts. Premier front, en février dernier, trois ONG, l'Institut Veblen, la Fondation Nicolas Hulot, c'était avant qu'il soit ministre, et Foodwatch, ont publié une analyse juridique du CETA pour montrer qu'il était incompatible avec la Constitution française. Il ne respecte pas le principe d'égalité devant la loi, il porte atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale, puisqu'il empêche de légiférer librement, et il ne respecte pas le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. Munis de cette analyse, 143 parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel, qui a rendu son avis en juillet. Et le Conseil constitutionnel a répondu de manière assez succincte, même pas à toutes les objections, que, en gros, il voit pas de problème. Et on comprend son embarras, puisque, comme le CETA est un accord de libre-échange qui ressemble à peu près à tous les autres, une éventuelle censure du CETA aurait remis en cause les 107 accords internationaux de protection des investissements que la France a déjà conclus. Ça aurait été gênant. Alors, deuxième front d'attaque, puisque celui-là n'a pas marché, c'est la commission d'experts que Macron avait promis pour analyser le CETA et ses conséquences. On s'attendait à quelque chose d'assez tiède et finalement, la commission a rendu son rapport il y a une semaine et leurs conclusions concordent assez bien avec ce que les anti-CETA répétaient depuis des années. En résumé, pour la commission d'experts, le CETA est incompatible avec l'accord de Paris sur le climat, puisqu'il risque d'entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Il menace la capacité des États à réglementer pour protéger l'environnement et les consommateurs. Il permet aux investisseurs de contester des politiques publiques via les fameux tribunaux d'arbitrage qui sont gérés par des avocats privés. Il risquerait d'affaiblir les normes sanitaires qui existent actuellement dans l'Union européenne, notamment sur les produits chimiques, et il pourrait remettre en cause le principe de précaution. Alors quand on voit toutes ces objections soulevées par la commission d'experts de Macron, on se dit que Macron va renégocier le CETA, puisque c'est ce qu'il avait promis pendant sa campagne. Il avait dit « si la commission montre qu'il y a des risques, on renégociera ». Eh bien non, la France va appliquer le CETA dès jeudi prochain. La bonne nouvelle a été annoncée par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, que tout le monde connaît ici. Bref, des poids lourds du gouvernement pour bien marquer l'importance de ce sujet. La mobilisation des anti-CETA continue donc. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain, la veille de l'entrée en vigueur du CETA. La plupart des organisations actives contre le CETA sont rassemblées dans le collectif Stop TAFTA, qui va publier son rapport lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. C'est un rapport qui devrait combler certaines lacunes du rapport officiel. Et une flash mob, c'est-à-dire une mobilisation éclair, est prévue de 13h à 14h, place Édouard Herriot, juste à côté de l'Assemblée nationale. Si vous voulez y participer, il suffit d'écrire à contact@collectifstoptafta.org. Collectif Stop TAFTA, c'est tout attaché.
Édouard Herriot, c'est pour montrer la radicalité de cet engagement.
Référence historique de Bonaloi. Alors, on continue sur le thème de critiquons le gouvernement tous ensemble les enfants, en écoutant des experts qui ont pour thème de détricoter en plein apéro d'été. Oui, ils vont détricoter devant vous la nouvelle loi travail qui n'a peut-être pas été décidé si démocratiquement que cela. Ce sont deux experts, Karl Gazi de la CGT Commerce et Thomas Coutreau d'Attac, qui vont nous livrer de façon humoristique et pédagogique leur explication sur cette nouvelle loi qui rendra les grands-parents, les grands patrons, très heureux, mais dégradera comme jamais les conditions.
On revient à l'époque de nos grands-parents, quoi.
Oui, mais avec des conditions du travail bien dégradées. On les écoute.
Mais tu vois là, moi, à partir du moment où ils sont la majorité, où les députés ils sont d'accord pour voter ça. Je vois pas où est le problème. Bon, bien sûr, ils passent par ordonnance, mais ils sont d'accord, les députés, pour le faire. Pourquoi on les en empêche, quoi? C'est démocratique, ils le décident.
Bah d'abord, Macron, je m'excuse, mais il a été élu par 24% des Français au premier tour. Au deuxième tour, il y a eu plus de la moitié des gens qui sont allés voter. Les députés, ils ont été élus, il y a eu plus de la moitié des gens qui se sont abstenus. Donc il n'a pas été, il n'a pas une grosse légitimité pour faire un truc qui va chambouler la vie de millions de gens pour le pire.
Ça veut dire quoi? Ils font rien alors, puisqu'ils ont été élus par une minorité, et ils font rien pendant 5 ans.
Il dort.
Non, il faut qu'ils prennent en compte l'avis des syndicats, l'avis des gens, qu'ils lancent un grand débat sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ils veulent libérer le travail. Ça veut dire quoi aujourd'hui, libérer le travail?
Ça me rend curieux de vous savoir aussi curieux.
Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de rendre le travail jetable à tout moment. On plafonne les indemnités prud'homales, ce qui fait qu'on peut licencier maintenant sans aucune cause. On sait à l'avance combien ça coûte. Il suffit de le budgéter. On peut décréter qu'on va embaucher quelqu'un pour un chantier, un CDI soi-disant de chantier. À la fin du chantier, hop, on peut jeter la personne. On peut jeter les gens si on perd un peu d'argent en France, même si on fait des bénéfices énormes à l'étranger. C'est pas ça, libérer le travail.
Mais les patrons, ils ont la trouille d'embaucher parce qu'ils n'arrivent pas à licencier. C'est pour ça qu'ils font ça.
Alors c'est intéressant parce que justement l'INSEE, qui n'est pas une officine très subversive, vient de sortir une étude sur les freins à l'embauche. Et qu'est-ce que montre cette étude? Donc ils ont interrogé les patrons pour savoir qu'est-ce qui pouvait freiner l'embauche. Et le motif, la peur de ne pas pouvoir licencier, c'est le quatrième motif qui est invoqué par moins de 20% des patrons. Le premier motif de loin, hein, c'est de ne pas avoir des carnets de commandes suffisamment remplis, l'incertitude sur l'avenir. La peur de ne pas pouvoir licencier, c'est pas ça qui bloque les gens, les patrons d'embaucher quand ils ont des commandes.
Ouais. Non, mais attends, les députés, ils sont élus, on leur demande un truc, ils décident d'accepter les ordonnances, c'est leur droit d'accepter, ils savent ce qu'ils font, les députés, enfin, je vois pas où est le problème, quoi.
Ben, le problème, c'est que le gouvernement va écrire dans son coin pendant l'été les fameuses ordonnances, sans discuter avec personne. Il aura consulté les syndicats pour la forme. Et ils vont présenter ça au Parlement à la rentrée. Et le Parlement, il faudra qu'il vote oui ou non. Il n'y aura plus de discussion, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'amendement. Et donc c'est une procédure qui permet d'éviter toute discussion approfondie avec les députés. Alors si les députés ont envie d'être des marionnettes, des pantins qui... des bénis oui, c'est leur problème. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas accepter ça.
Chut. Peut-être que pendant ce temps-là, ils peuvent faire d'autres trucs, les députés.
Oui, effectivement, ils peuvent peut-être embaucher des assistants parlementaires de leur famille.
Ouais, voilà. Tu vois, le truc, c'est que quand même, c'est... Non, mais je crois que t'as une dent contre lui, Macron. Parce que c'est quand même pas le premier, quoi, à recourir aux ordonnances. Depuis 1958, il n'y a pas un président qui ne s'est pas servi des ordonnances.
Bah, détrompe-toi, De Gaulle s'est quasiment pas servi des ordonnances, Pompidou très peu, Giscard encore moins. Et c'est à partir de Mitterrand et surtout de Chirac et Sarkozy que le recours aux ordonnances a commencé à monter en flèche. Et tu sais pourquoi? Surtout pour transposer en droit français les directives européennes. Donc c'est pour éviter d'avoir des débats à l'Assemblée nationale sur les directives, la transposition des directives européennes. Donc pour te dire que c'est un instrument vachement démocratique, l'ordonnance.
Voilà. Quand c'est pas Macron, c'est l'Europe. Non mais là, tu vois, t'as... Suppose que c'est ta boîte, quoi. T'as un truc, tu sais, il va durer 2-3 ans. Tu vas pas embaucher un mec en CDI pour la vie, quoi. Puis après, t'es obligé de licencier les prud'hommes, tout ça, c'est l'horreur, quoi. CDI de projet, c'est bien.
Non, c'est ce qui est très fort, c'est d'appeler ça CDI. Parce qu'en réalité, c'est encore plus précaire que le CDD. Tu sais même pas. Tu sais, au moins, le CDD, tu sais quand ça va se terminer. Tu peux faire des projets après. Le CDI, tu sais même. Le CDI de chantier, tu sais même pas quand est-ce que ça. Ou de projet. Tu sais pas quand ça va se terminer. C'est le patron qui décide que le projet est terminé. Donc là, c'est vraiment l'insécurité maximale.
tu vois bien quand même qu'on est le seul pays d'Europe où le chômage baisse pas. Le travail, il est dans un carcan de règlements, le code du travail, le machin, les trucs, on peut pas licencier. On est le pays où il y a le plus de chômeurs, c'est pas normal. Regarde en Allemagne, regarde en Angleterre, ça se passe pas comme ça.
C'est dingue, baby, yeah!
En effet, en Allemagne et en Angleterre, ils ont réussi à créer des emplois en dérégulant beaucoup le marché du travail, en créant des micro-jobs, des mini-jobs aussi, ce qu'on appelle les emplois sur commande, ou les contrats zéro heure. C'est-à-dire que tu sais pas, en Angleterre, tu ne sais pas si demain tu vas avoir du travail. Ton employeur te téléphone le matin et te dit « venez » ou ne te téléphone pas et tu ne viens pas. C'est ce qu'on appelle les contrats zéro heure. En Allemagne, ça s'appelle les mini-jobs. Hein. C'est des emplois à moins de 500 euros, sans protection sociale. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. C'est ça, la liberté du travail.
Ouais. Slow down, Mr. Bongo.
Alors après cet détricotage estival de la loi travail, on peut peut-être prendre le temps de continuer à être un peu ludique. Mais je vais vous poser une question. Connaissez-vous et avez-vous déjà joué au Monopoly ?
Oui, bien sûr.
Oui, tout le monde. Oui, hein, oui. Tout le monde a joué. Oui. Alors certains me disent ici qu'ils...
Moi, j'ai croisé dans ma vie des monos grossiers.
Des monos grossiers. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a même fauché régulièrement, peut-il. Un vrai faucheur, voilà. Mais si vous avez joué Monopoly, peut-être avez-vous connu ce plaisir intense, celui de gagner à ce jeu. Gagner à ce jeu, cela consiste à s'emparer le premier des rues les plus chères d'une ville et pour pouvoir ensuite paresseusement encaisser passivement les loyers. Vous gagnez quand tous les autres se retrouvent tout simplement ruinés. C'est un plaisir. Ce jeu m'a toujours laissé songeur. D'abord parce que malgré toutes les parties que j'ai pu jouer dans mon enfance, j'ai systématiquement perdu.
Tu n'as jamais connu ce plaisir.
Je n'ai jamais connu ce plaisir.
Durant qui regarde ses adversaires.
Non. J'ai toujours été dans la frustration absolue.
C'est pour ça que tu es devenu enseignant.
Peut-être que c'est formateur d'ailleurs, parce que ce jeu, il est quand même, c'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu excessivement célèbre. C'est peut-être un des jeux les plus connus. Et il est connu en plus à travers la planète, avec des tonnes de versions. Et tout le monde arrive à comprendre le Monopoly. Je pense que des gens de langues différentes pourraient jouer, bien entendu, les uns contre les autres sans aucun problème.
Naturel.
Mais oui, mais c'est quand même
Le capitalisme n'a pas de pays, le capitalisme n'a pas de patrie.
Mais n'empêche qu'il n'a pas de patrie, le Monopoly, il marche partout. C'est bien un bon exemple. Mais il est quand même un jeu qui marche absolument, mais alors qu'il est particulièrement vide. Hein. Et d'ailleurs même, il est tellement mal fait qu'on finit jamais une partie de Monopoly. Qu'est-ce qui peut faire que ce jeu fonctionne ? Bon, mais passons. Mais l'autre raison qui m'interpelle, c'est que ce jeu est, comme vous venez de le dire, présenté régulièrement comme un bon jeu, hein, les parents vous disent ça, pour apprendre à compter, alors on compte ses billets, on économise, on met de côté, on se prépare peut-être à la vie future, j'en sais rien, mais pourtant, ce jeu, il a une leçon, encore une fois. Un seul gagnant richissime. Quand tous les autres perdent. Mais ça, c'est une leçon pour fils de milliardaire.
Mais en même temps, si t'as pas une Rolex à 50 ans,
mais oui, c'est cette leçon-là qui nous est donnée. Hein, imaginez le
fils. Si même pas un costard.
Même le fils Trump, je ne sais pas si ça lui sert suffisamment de leçon aujourd'hui. Enfin, il faudrait peut-être qu'il rejoue un peu. Mais c'est pas un jeu pour tout un chacun. Ou alors, même au contraire, c'est un jeu qui va former des anarchistes ruinés, prêts à faire brûler la Trump Tower. Hein, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un jeu qui forme plus finalement à la frustration d'avoir perdu que à ce plaisir d'avoir gagné, parce que même ceux qui gagnaient régulièrement au Monopoly ne sont pas devenus brutalement richissimes en encaissant des loyers sans rien faire. Alors moi j'ai toujours été surpris, mais finalement j'ai tout tombé il y a pas très longtemps sur la véritable histoire du Monopoly et qui donne raison à cette analyse. En fait, le Monopoly, sa véritable racine date de 1903 d'une américaine du nom d'Elizabeth Maggie Phillips, plus connu sous le nom de Lizzie Phillips, qui a décidé de créer un jeu qu'elle a appelé le Landlord's Game, donc le jeu du royaume, le jeu de celui qui possède la terre.
Du propriétaire.
Et en fait, elle était adepte de l'économiste Henry George, qui avait fondé un mouvement appelé le georgisme, qui estimait que s'il existe bien une propriété sur ce que les hommes créent par eux-mêmes, donc on peut être propriétaire de son usine ou d'une idée, il n'en est pas de même pour les objets naturels. Et il considérait que, notamment pour les terres, elles devaient appartenir à tous. Et c'est même dans le but de vouloir essayer de freiner ces effets négatifs de la propriété de la terre, qu'il avait voulu mettre en place une taxe pour essayer de faire une meilleure répartition de la propriété terrienne. Il disait par exemple qu'en taxant la valeur des terres, la société serait en mesure de se réapproprier son héritage commun et d'éliminer les besoins d'instaurer des taxes sur l'activité productive. Bref, le contraire absolu du monopoly. Et pourquoi donc Lizzie Phillips a inventé cet ancêtre du monopoly? Ben, c'était pour montrer l'absurdité du monde où des gens propriétaires font payer des loyers énormes et que progressivement, bah, les propriétaires s'enrichissent et puis le pauvre locataire s'appauvrit définitivement. Mais son jeu, ben, il n'a pas marché dans sa version première en 1903 et d'autres l'ont trouvé par hasard 30 ans plus tard. Donc il y a un conflit, il y a un Charles Todd qui a essayé de faire un premier jeu qui n'a pas marché, puis un Charles Darrow qui a lui-même recopié plus ou moins tout ce qu'avait écrit Charles Todd, qui a inventé par contre le nom Monopoly, qui l'a vendu à l'entreprise Parker Brothers, et puis l'histoire, dans les années 30, fait l'explosion de ce jeu qui, depuis, est devenu, comme on l'a dit, numéro 1. Lizzie Maggie Phillips a protesté en 1936, mais tout de suite on lui est venu lui expliquer que c'était pas très très bien qu'elle râle, et puis même elle-même s'est convaincue que finalement ben, le Monopoly était très proche de ce qu'elle voulait, essayer d'inculquer aux gens l'absurdité de devenir le roi absolu des terres et d'encaisser des loyers. Et donc pour cette meilleure diffusion, elle a accepté un arrangement à $500 en disant qu'elle donnait les droits de copyright. Enfin, bien lui a pris parce que le jeu a explosé et Charles Darrow est donc mort en 1967 millionnaire, et le jeu est encore protégé jusqu'en 2038. Enfin, cette leçon a laissé pas mal de gens essayer de tenter de faire d'autres monopolies. Donc, il y a eu l'anti-monopoly qui essayait justement d'expliquer à l'envers le raisonnement du monopoly. Et puis, en ce moment, vous pouvez jouer, si vous le voulez, à un nouveau jeu qui s'appelle le Commonspoly, qui est créé par le collectif Zemo 98, qui a mis un tout nouveau jeu de plateau qui s'inspire du célèbre Monopoly en naquant les règles avec des bons principes de s'emparant de la propriété intellectuelle pour renverser le jeu en ne faisant passer d'une quête de profit individuel à un développement collectif des biens communs. En effet, que pour jouer à ce jeu, il faut nécessairement avoir une stratégie en groupe pour lutter contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est les crises financières, le chômage, les changements de climat, une course contre la montre. Et les créateurs soulignent qu'on a un réel sentiment d'excitation et d'optimisme à l'égard des choses. Cela change de la frustration du perdant du Monopoly. Mais finalement, cette frustration du perdant Monopoly, que personnellement j'ai très connu, très longtemps connu et encore connu, parce que maintenant je joue avec mes nièces qui aussi gagnent à ma place. Eh bien, cette frustration, je suis sûr qu'elle est formateur, finalement.
Non, c'est parce que tu jouais pas bien. Moi, je jouais, mais je dévalisais la banque.
Voilà.
Et c'est comme ça. Vachement plus drôle.
Mais que ça soit drôle ou pas, ce sentiment de frustration, moi, je le trouve fondateur pour expliquer comment on peut, avec un jeu capitaliste, finir par comprendre plutôt ses excès.
Mmh. Il y a le rôle des dés quand même, le rôle du...
Une frustration fondatrice, c'est très chrétien.
Mais tout à fait.
Tu veux dire que nous sommes des frustrés?
Bah, nous sommes tous un peu frustrés, non? Pas vous?
Ouais. Est-ce qu'il y a le même hasard dans la vie?
Ah ça, Dieu joue-t-il au dé? Eh bien, nous enchaînons en retrouvant nos détricoteurs estivaux avec ce coup-ci le thème « Ça va mal, on coupe tout ».
Non, mais franchement, t'es de mauvaise foi, là. Tu vois bien, dans le journal, ils disent que faire des accords d'entreprise, c'est beaucoup mieux que les accords de branche ou la loi, parce que ça permet d'ajuster les accords, les conditions au plus près du terrain. C'est évident, non?
Mais oui, voilà. Chacun sa merde. Avant, il y avait des règles pour tout le monde. Et là, tu auras une règle différente en fonction du lieu où tu vas bosser. Par exemple, tu es chez Renault, tu as 5 semaines de congés payés, tu as un salaire convenable, tu as des droits, tu es chez Peugeot, tu as moitié moins. Qu'est-ce qui va se passer? Peugeot, il va vendre moins cher ses voitures, il va en vendre plus, et Renault, il va être obligé de descendre les droits de ses propres salariés derrière. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, il est tiré vers le bas. C'est ce qu'il veut, Macron. C'est pas que chacun négocie sur place des trucs bien, c'est que tout le monde n'est rien à la fin. C'est aussi du travail jetable, ça.
Ah, tu vois, là, ils disent référendum d'entreprise, bah, ça permet de donner la parole aux salariés pour savoir ce qu'ils veulent vraiment.
Tu sais qui a inventé le référendum en France? C'est Napoléon. C'est vachement démocratique, Napoléon. Hein. Et tu sais pourquoi ils veulent mettre le référendum en entreprise ? Parce que le patron, il tient tout. C'est lui qui pose la question, c'est lui qui décide de quand il a lieu le référendum, et c'est lui qui fait le chantage avec. Quand il dit aux gens, soit vous acceptez ce que je vous demande, soit vous n'avez plus d'emploi à la fin, qu'est-ce qu'ils disent ? Les gens, ils disent, bon, bah, d'accord, on perd un peu de salaire, on perd un peu de congé, on perd un peu de droits, mais au moins on garde un emploi. Et à la fin, ils perdent tout, et leurs droits, et leur emploi. Ça s'est passé partout comme ça, et ça va continuer comme ça avec le référendum.
Non mais tu vois bien, c'est quand même beaucoup plus rationnel. CE, DP, délégué syndical, CHSCT, plus personne n'y comprend rien. Ils vont tout fusionner, ce sera beaucoup plus clair. Les salariés sauront à qui s'adresser quand ils ont un problème.
Ben, c'est sûr, ce sera plus clair. Ton délégué, tu le verras plus jamais. Il sera au siège, là où il y a le CE. Ils seront tous là-bas. Ton délégué du personnel, tu verras plus jamais la couleur de ses yeux. Il n'y en aura plus. Ils seront tous à 600 km d'ici. Et quand on aura besoin, ben, tu lui enverras un mail.
Non mais écoute, de toute façon, il était quand même temps de faire quelque chose. Hein. Ça fait 30 ans qu'on fait rien, on est bloqué, tous les patrons disent qu'ils sont bloqués par le code du travail qui les empêche d'embaucher. Ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait. Heureusement que Macron commence à s'y mettre, hein. Il serait temps.
C'est sûr qu'on fait rien depuis 30 ans. Les accords dérogatoires sur le temps de travail, 82, le temps partiel dans tous les sens, années 80... La suppression de l'autorisation administrative de licenciement en 86, c'était Chirac déjà. Les lois Fillon, la loi Macron, la loi de sécurisation de l'emploi, les ruptures conventionnelles, la loi El Khomri, ça fait plus de 30 ans, ça fait 40 ans qu'on déréglemente le travail. Et aujourd'hui, il y a plus de chômeurs qu'il y a 40 ans. Alors ça, comment tu l'expliques ? Déjà, ils t'enlèvent tous les droits. Là. Bientôt, tu n'auras plus le droit au congé payé. Il faudra que tu bosses 60 heures par semaine. Tu dois cavaler d'un patron à l'autre sur une même journée parce que faut être flexible. Même t'as plus le droit, mais t'as plus non plus le droit d'aller les faire respecter parce qu'on te raccourcit les délais pendant lesquels tu vas pouvoir aller faire respecter tes droits. Si t'es pas content, bah t'as 2 mois, t'as 3 mois, t'as 4 mois, mais au bout de 6 mois, tout est terminé. C'est pas possible. Avant, on avait 5 ans. Pour faire respecter nos... Quand le patron ne payait pas les salaires, on pouvait remonter jusqu'à 5 ans en arrière. On va aller jusqu'à combien là ? Une semaine ? Au bout d'une semaine, t'es pas payé, t'as plus rien ?
Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que les Chinois, ils ont des droits ? Non, mais là, sur l'histoire du périmètre des licenciements, c'est quand même normal qu'une entreprise qui fait des pertes en France, un grand groupe international qui fait des pertes, il puisse licencier en France. C'est quand même logique, non ?
You're fired. You're fired. You're fired.
Mais ça veut rien dire, faire des pertes en France. Les groupes, ils marchent pas comme ça. Et une usine, elle peut très bien marcher en France. Ils lui facturent des frais de groupe au Luxembourg. Tout l'argent, il part au Luxembourg et du jour au lendemain, ils la rendent déficitaire. Et après, ils virent les salariés et les gens, ils se retrouvent au chômage. Et les profits, eux, ils baissent pas. Non, non, c'est n'importe quoi, cette histoire. Tu peux pas apprécier la situation d'un groupe juste en regardant un petit morceau. Là, ça va mal, on coupe tout. C'est pas possible, ça.
Tu veux dire que les groupes français, ils utilisent les paradis fiscaux pour planquer leurs bénéfices ?
Français, pas français. Il n'y a pas que des groupes français qui emploient des gens en France.
Oh, t'exagères. Vraiment, ouais. C'est... Merci.
Alors, par rapport à la chronique précédente sur le Monopoly, un auditeur nous demande de rappeler le nom de ce jeu, c'est le Commonspoly. Vous pouvez le retrouver sur le site Commons, commonspoly.cc. Mais nous n'allons pas parler du point CC, mais du point VZ, qui doit certainement être l'extension Internet du Venezuela, n'est-ce pas Alex ?
Sans doute, j'ai pas été vérifié. Alors oui, bah une chronique sur le Venezuela, une chronique un peu difficile à faire, un peu qui m'embête quoi. Hein, mais je vais y aller quand même. Hein. Évidemment, parce qu'en parlant du Venezuela, qui est quand même un peu le.
Toi, t'as joué au Monopoly quand t'étais petit.
Le pays de gauche démocratique avec une vraie politique sociale en Amérique du Sud, qui a été pour certains un modèle. Moi, j'ai jamais à titre personnel considéré que c'était un modèle, mais. Il représentait quelque chose et là, la situation actuelle au Venezuela est dramatique avec plus de 1000% d'inflation, avec un taux de chômage qui est passé en quelques années de 5-6% à près de 25%, avec un PIB qui serait tombé, on a du mal à trouver des chiffres exacts, mais aux alentours de, qui aurait baissé de 18% l'année dernière. Situation économique vraiment dramatique, donc c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Parce qu'on a deux interprétations. Il y a l'interprétation officielle, et j'y reviendrai, celle des chavistes, des maduristes, comme on dit maintenant, des partisans de Nicolas Maduro, et puis celle de l'opposition. Et on va voir si, justement, il y a une troisième position possible par rapport à ça. Alors, un petit mot quand même sur le chavisme ou le bolivarisme, ça a été quand même quelque chose. Il y a une chose qu'on soit un adversaire ou un partisan qu'il faut reconnaître, c'est que la politique de Chavez a amené une diminution de la pauvreté et des inégalités exceptionnelles entre 1999 et 2012, entre le moment où il est arrivé au pouvoir et sa mort, qui est à peu près sans comparaison en Amérique latine et même dans le reste du monde, il y a peu d'équivalent. Après, il y a eu des critiques et sur le plan politique, c'était l'extrême personnalisation du pouvoir. Sur le plan économique, et là aussi, ça va être un peu ma conclusion d'ailleurs, un problème de diversification économique. Alors, pour dire les choses simplement, comment ça fonctionne le Venezuela économiquement? Eh ben, dans les années 20, on a découvert le pétrole au Venezuela et tout a changé. La production, l'essentiel des exportations, c'est devenu le pétrole. Le pétrole a rapporté, en gros, rapporte actuellement, en gros, la moitié du budget de l'État, correspond à 85-90% des exportations du pays. Et ça a entraîné très vite l'apparition du pétrole, dès les années 20-30, le fait que une baisse de la production locale au profit des importations. Ils se sont mis à importer massivement, parce qu'ils pouvaient se le permettre, grâce à la rente du pétrole. Et à décourager d'une certaine manière la production locale. Et ce problème-là, c'est le problème récurrent du Venezuela, qui était déjà là à partir des années 30 et qui continue d'être là. Donc, avant que Chavez arrive, on avait cette situation-là, on avait une rente pétrolière déjà, qui bénéficiait à très peu de personnes. Le grand mérite de Chavez, c'est d'avoir permis que cette rente pétrolière, elle bénéficie à la majorité de la population. Pays complètement dépendant du niveau du prix du pétrole, des cours du pétrole. Et puis l'autre caractéristique majeure, et qui est encore le cas maintenant d'ailleurs, du Venezuela, c'est la fuite des capitaux. C'est-à-dire que le pétrole, ça rapporte, cette rente, elle a tendance quand même à être captée par une petite partie riche de la population, et cette petite partie riche de la population, cet argent, elle l'utilise pas pour investir localement, et elle préfère l'envoyer à l'étranger, acheter à l'étranger. Donc ça, c'est le gros problème. Quand Chavez est arrivé, sur le plan économique, il a mis en place un certain nombre de modifications, un certain nombre de transformations qui ont pas mal affecté l'économie vénézuélienne. Il y a eu une reprise en main par l'État en 2002-2003 de l'industrie pétrolière, qui était déjà nationalisée, mais comme les dirigeants de cette entreprise nationale qui s'appelle PDVSA, Petroleos dos de Venezuela S.A. Était déjà nationalisé, mais les cadres de cette entreprise étaient très opposés au chavisme, avaient essayé de faire une grève pour faire tomber Chavez, donc Chavez avait viré près de la moitié des dirigeants de l'entreprise pour imposer des personnes qui seraient plus favorables au chavisme. Par ailleurs, il a mis en place un contrôle d'échange. Autrement dit, une parité fixe entre le dollar et le bolivar. Et contrôle d'échange, ça veut dire aussi une nécessité pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quel particulier qui veut changer des dollars en bolivar, par exemple pour acheter des produits étrangers, il a besoin d'une autorisation de l'État. Et donc du coup, on s'est retrouvé dans cette situation qui est toujours le cas actuellement, où c'est l'État vénézuélien qui distribue les dollars en fonction des besoins des entreprises qui importent. Et une grande partie de l'activité économique au Venezuela, c'est ça. C'est importer des produits qui sont payés par la rente pétrolière. Et ça ne peut passer que par l'autorisation de l'État. Et on se retrouve donc du coup dans cette situation avec, comme le dit Renaud Lambert, qui est pas un économiste de droite, hein, mais plutôt un journaliste du monde diplomatique, dans une situation où c'est comme si l'État subventionnait l'essentiel de l'économie. Et ces transformations, on voit bien le but, c'était d'éviter la fuite des capitaux, c'était d'essayer de contrôler les importations pour pas que la minorité dirigeante du pays s'accapare les richesses, et ça permettait aussi d'aider une partie de la population en subventionnant des produits de première nécessité. Et très vite, on s'est rendu compte que ce système poser problème et entraîner des difficultés. Le bolivar, comme il était fixé en parité avec le dollar, il avait tendance à être trop fort. Ce qui veut dire que quand on essayait d'exporter d'autres produits que du pétrole fabriqué au Venezuela, mais c'était pas intéressant. Le coût du bolivar était trop élevé. Et ça voulait dire aussi que les... ça permettait aussi de baisser le coût des importations. Donc ça encourageait encore plus les Vénézuéliens à avoir recours à des importations massives de produits. Et puis ça entraînait aussi quelque chose d'un petit peu complexe, c'est-à-dire une forme de fraude qui s'est développée progressivement. Des entreprises demandaient des dollars à l'État pour pouvoir échanger donc des bolivars contre des devises en disant « on va importer telle quantité de produits de première nécessité ou de produits... » voilà, qu'on va vendre aux Vénézuéliens. Et puis, en fait, ils en achetaient à un certain prix. Et puis, ils en achetaient en réalité moins, enfin, ou plus, à un prix moins élevé, et empochaient la différence. Détourner, en fait, utiliser ce système pour récupérer une partie des dollars de la rente pétrolière et se les mettre dans la poche. Donc là, déjà, ça a eu des effets inflationnistes. Mais le système s'est réellement écroulé à partir de justement 2012, un petit peu avant même, mais à partir du moment où les prix du pétrole se sont effondrés. Prix du pétrole qui s'effondre, ça veut dire que les devises à la disposition à donner aux entreprises qui importent, les devises à la disposition du pays ont baissé très nettement. Et ce qui veut dire que d'un coup, ces Vénézuéliens qui avaient un pouvoir d'achat élevé puisqu'il y avait eu une forte croissance économique et en particulier pour les classes moyennes et les pauvres qui avaient beaucoup bénéficié des systèmes, des programmes sociaux mis en place par Chavez, se retrouvaient avec un fort pouvoir d'achat et par contre, moins d'importations. On se retrouve en situation de pénurie, les entreprises font monter les prix et ce qui engendre de l'inflation, ce qui entraîne la dévaluation de la monnaie, ce qui accentue encore la difficulté. À ce moment-là, Maduro, à la suite de la mort de Chavez, rapidement met en place un système très étrange de double taux de change, où il y a un taux de change normal qui est de 657 bolivars pour 1 dollar pour les produits ordinaires, et un taux de change avantageux qui est de 10 bolivars pour 1 dollar pour les produits de première nécessité. Et alors là, ça a foutu le système en l'air. On est passé de l'inflation forte à l'hyperinflation. C'est comme ça qu'on est passé de 20-30% d'inflation par an à 1000%. Et on comprend très très bien pourquoi. Parce que ça devient extrêmement intéressant de récupérer des dollars en disant qu'on allait acheter des produits de première nécessité et de ne pas acheter ces produits de première nécessité. Et là où on a les interprétations divergentes, c'est qu'actuellement le régime de Maduro nous dit « mais le problème, ça vient des multinationales ». Puisqu'en fait, une grande partie de ces importations vers le Venezuela sont faites par des multinationales américaines, pas seulement américaines, ça peut être aussi des multinationales françaises, espagnoles, qui bénéficient de ce système-là et qui sont accusées par Maduro de ne pas jouer le jeu et de détourner une partie de l'argent. L'opposition, elle rétorque en disant « c'est pas les multinationales le problème ». Le problème, c'est les dirigeants eux-mêmes. C'est-à-dire une partie des hommes de Maduro, du régime, qui utilisent le système pour détourner des dollars à leur profit. Et je pense que les deux sont en partie vrais. Mais il y a une troisième chose qui est encore plus terrible. On a vu que les produits de première nécessité, ils étaient subventionnés. On a une pauvreté qui explose, un chômage qui explose. Eh bien, on voit très bien que logiquement, les plus pauvres, une activité, un moyen de gagner sa vie, ça peut être de faire tous les magasins possibles le matin de bonne heure, d'essayer d'acheter le maximum de produits de première nécessité et de les revendre au marché noir plus cher. Voilà. Donc c'est la situation actuelle du Venezuela. Le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de charger la barque sur Chavez, même sur Maduro, même si je suis personnellement assez critique sur les décisions qu'il a pu prendre depuis la mort de Chavez, au moins sur le plan économique. Mais c'est le problème fondamentalement de cette rente pétrolière et de cette économie basée sur la rente pétrolière. Cette crise que connaît le Venezuela, elle l'a connue au début des années 90. Et c'est ce qui a permis à Chavez d'arriver au pouvoir ensuite. Elle l'a connue à la fin des années 70 et au début des années 80. Et elle l'a connue de manière régulière. En économie, on appelle ça la maladie hollandaise. On devrait appeler ça maintenant la maladie vénézuélienne. Le fait de ne dépendre que d'un produit comme le pétrole est quelque chose d'extrêmement négatif pour l'ensemble de la société. Voilà.
Bravo, bravo. Alors, pour accélérer et finir l'émission, je fais juste les grandes lignes de l'agenda, tout seul, parce que le temps presse. Je vous propose d'aller le dimanche 17 septembre à la conférence « Comprendre les migrations internationales ». C'est sur le, au Palais de Tokyo, il y a une exposition qui s'appelle « We Dream Under the Same Sky », avec, entre autres, une conférence donc par Migre Europe. Et le mardi 19 septembre, « L'enfermement des exilés, la rétention d'une prison qui ne dit pas son nom » avec la CIMAD. N'oubliez pas le jeudi 21 septembre à 14h, la manifestation appelée par CGTFO, FSU, Solidaire, UNEF, etc., qui sera entre Montparnasse et le Passe d'Italie. Il y a le projection débat Images Mouvementées, le festival du cinéma d'attaque, avec différents films qui seront principalement au cinéma Les 5 Comartins, rue Saint-Lazare. Vous pouvez voir par exemple A Force More Powerful, un documentaire de Steve York, qui laissera la place à un débat Gandhi 2.0, la relève de la désobéissance civile, avec entre autres Touma Koutro, qu'on a reçu dernièrement. Il y aura aussi d'autres débats comme et films No Tree Will Fall, avec une projection aussi sur Les Pieds sur Terre, débat Refuser les grands projets inutiles et imposés avec Gilles Sabatier, qu'on connaît bien aussi ici. N'oubliez pas le samedi 23 septembre la marche contre le coup d'état social avec la France insoumise place de la Bastille, ainsi que la marche pour la paix le même jour à peu près au même endroit, donc il faudra bien qu'ils se mettent d'accord. Partout en France le 23 septembre, marchons ensemble pour la paix. Et pour terminer aussi la soirée, si vous n'étiez pas en train de nous écouter, vous êtes peut-être à la fête du Luma qui a lieu ce week-end et vous êtes peut-être en train d'écouter l'Ojo. On va faire comme eux, on écoute l'Ojo. Brûle la mèche.
Nous aurons laissé une traînée d'eau poudre, fait un cercle des villes, brûler la mèche. Brûler la mèche avec un mot du levant. Enfumer le matin pour le coup.